Mesdames et messieurs, bonjour. C'est la dernière séance de cette série de cours et en fait c'est la dernière séance d'un parcours assez long puisque sur ces questions de l'interface entre chimie et biotechnologie, j'ai consacré l'ensemble de mes cours de l'an dernier et cette année. Donc c'est un ensemble, alors évidemment ce n'est pas exhaustif, limité, mais j'ai essayé de vous montrer un certain nombre d'approches. Comme vous avez pu le constater, ce sont des résultats très récents, même si au cours de ce voyage j'ai aussi montré que bon, il y avait une histoire, il y a des gens qui ont été des pionniers plusieurs dizaines d'années avant que maintenant, grâce à la maîtrise de technologies modernes, de connaissances plus grandes des génomes, des protéomes, des transcriptomes, etc., des organismes vivants en général, évidemment la puissance d'action du chimiste et du biologiste est décuplée. Et également, évidemment, toutes ces recherches sont quand même très orientées vers les applications, même si au cours de ce parcours, on apprend des choses sur le fonctionnement du vivant, sur la capacité des chimistes à le modifier. Évidemment, on ne manipule pas les organismes, enfin, pour faire mumuse, hein, on les manipule dans un but d'application le plus souvent. Évidemment, parce que ce sont des thèmes qui m'intéressent, j'ai cette année un peu plus focalisé sur les aspects de l'énergie. Alors, puisque je parle d'application, je suis vraiment très heureux de terminer ce cours, enfin cet ensemble de cours, avec Marc Delcourt, qui représente, je dirais, l'ensemble des choses qu'on a vues, le côté application et comment une entreprise peut se développer à partir des concepts, ces nouveaux concepts, voilà, de la biologie et des biotechnologies. Alors, je vais vous parler d'une histoire aujourd'hui très spécifique et en même temps très récente. Vous allez voir pratiquement les derniers résultats que je montre, c'est les années 2015-2016. Et vous allez voir finalement un ensemble de choses, ça va faire un résumé de tout ce que j'ai raconté pendant 2 ans. On va revoir des choses de type ingénierie métabolique, biologie de synthèse, mais aussi de l'enzymologie, aussi des organismes que j'ai appelés chimiquement modifiés. Voilà, donc tout un ensemble de choses autour de cette question des hydrocarbures. Alors qu'est-ce que c'est que cette question des hydrocarbures? Le point de départ, c'est celui-ci. En fait, c'est une observation relativement récente que, par exemple, dans les océans, il y a des hydrocarbures dans des zones qui n'ont jamais été polluées par l'homme. Et ça, ça a longtemps troublé, parce qu'évidemment, l'idée, c'est que les hydrocarbures, c'est une production de l'homme, et que, évidemment, là où il y en a, c'est que des pétroliers sont passés, ou qu'il y a eu des... Voilà, des fuites, des sites d'hydrocarbures, voilà. Alors en réalité, vous allez voir que ce n'est pas vrai, et en l'occurrence, on trouve donc des concentrations naturelles, donc dans des sites non pollués, de cet ordre-là. Alors, des picogrammes par millilitre, ça paraît, des centaines de picogrammes par millilitre, ça paraît peu, mais globalement, à l'échelle de volume massif de l'océan, ça peut être très très important, vous allez le voir. On retrouve essentiellement, d'ailleurs, bon, le pentadécane, c'est un des produits majoritaires, donc ce sont des alcanes à longue chaîne, linéaires. Bon, vous avez de l'heptadécane souvent, vous avez des alcènes, et en fait, ce qui est maintenant bien établi, c'est que ce sont des hydrocarbures qui sont produits par des micro-organismes. Et le plus souvent, des cyanobactéries. Les plus abondantes, c'est Prochlorococcus et Sinococcus. À nouveau, vous voyez que le pentadécane est le plus abondant. avec une production qui est significative, hein, vous voyez, 200 à 500 picogrammes par millilitre et par jour, de sorte que par an, si vous faites un calcul, c'est 300 à 700 millions de tonnes d'hydrocarbures qui sont relarguées par ces organismes. C'est colossal. Évidemment, ce n'est pas 300 à 700 millions de tonnes qui restent dans l'océan, puisque, évidemment, ces hydrocarbures... ces hydrocarbures, maintenant on le sait, sont utilisés comme source de carbone par d'autres organismes. C'est souvent le cas dans les écosystèmes biologiques, cette question d'équilibre entre production et consommation. Et effectivement, il y a donc des cyanobactéries, des organismes qui transforment, alors par photosynthèse, hein, puisque les cyanobactéries, je l'ai dit de multiples fois, ce sont des organismes photosynthétiques, synthétisent des hydrocarbures et ces hydrocarbures sont utilisés pour la croissance, donc comme source de carbone, pour la croissance d'autres organismes vivants qui poussent donc sur ces hydrocarbures. Alors évidemment, derrière, et on va en dire de nombreux mots, derrière il y a toute la question de la chimie de ces processus, qui est tout à fait intéressante. Alors juste quand même, pour ces chiffres-là, vous voyez, il y a une production de 300 à 700 millions de tonnes d'hydrocarbures par an, et c'est intéressant de comparer ces chiffres-là aux environ au maximum 2 millions de tonnes par an dues aux infiltrations naturelles, aux 2 millions de tonnes maximales par an dues aux activités humaines, pétrolier, pollution, etc., et aux 0,68 millions de tonnes qui ont été relarguées lors de l'accident de Deepwater Horizon, dans le golfe du Mexique. Donc vous voyez que, deux choses à retenir, c'est qu'effectivement, de façon naturelle, la production d'hydrocarbures est largement plus importante que ces pollutions-là. Et par ailleurs, le cycle, à savoir qu'il y a des organismes qui consomment ces hydrocarbures, explique pourquoi... répondent à cet étonnement qui a été... qui s'est déclaré tout de suite concernant la capacité naturelle de, y compris dans un accident comme Deepwater Horizon, de voir disparaître les hydrocarbures polluants assez rapidement. Et effectivement, il y a une réponse naturelle aux hydrocarbures. Et voilà, donc je vous rappelle les quantités d'hydrocarbures des différents accidents, vous en avez entendu parler. Certains se souviennent peut-être de l'Erika, de la Mococadis, et puis plus récemment de Deepwater Horizon. Et donc, vous voyez à nouveau, ces chiffres sont très largement inférieurs à cette production naturelle d'hydrocarbures. Donc, à nouveau, voilà le cycle un peu plus en détail, et on va rentrer un peu dans la chimie de ces processus. Donc, les cyanobactéries sont des organismes photosynthétiques qui sont capables, en utilisant l'énergie solaire, de transformer le CO2 en alcane à travers une voie biosynthétique, vous allez voir, assez particulière. Et ces alcanes peuvent être donc consommés par une deuxième famille de bactéries qui dégrade ces hydrocarbones. En particulier, ces bactéries-là, j'en parlerai pratiquement plus, je vais me concentrer sur cette chimie de production d'alcanes. Des familles de bactéries qui, en effet, peuvent pousser sur de l'heptadécane, par exemple, ou sur du pétrole. Donc, il existe des bactéries qui ont la capacité de pousser, tirer leur carbone du pétrole, et donc, de fait, de le dégrader au cours du mécanisme de respiration. Voilà. Alors, comment se fait cette biosynthèse des hydrocarbures? Et en fait, dans ce papier de Science en 2010, une étude sans doute pionnière, hein, c'était la première fois que ces choses-là étaient abordées de cette façon, donc avec des analyses génomiques comparatives entre différents organismes, certains produisant des alcanes, d'autres n'en produisant pas, de la même famille, donc sur des génomes assez proches, eh bien, il y a deux gènes qui absolument essentiels à la production d'hydrocarbures qui ont été découverts. Voilà quelques exemples de ces organismes qui ont été étudiés pour la production d'alcane. Et dans cet article, ces deux gènes ont été exprimés dans Escherichia coli. À nouveau, vous retrouvez cette bactérie qui est largement utilisée dans les approches d'ingénierie métabolique et de biologie de synthèse. C'est un organisme que les biologistes savent bien cultiver et modifier génétiquement, etc. Donc ces deux gènes ont été introduits dans Escherichia coli, qui évidemment ne produit pas d'hydrocarbures, n'a pas la machinerie protéique pour produire des hydrocarbures. Et ce qu'on voit, c'est que cette souche d'Escherichia coli produit des hydrocarbures qui sont excrétés par la bactérie, hein, puisque vous le trouvez dans le surnageant et pas dans le culot après centrifugation des bactéries. C'est ce que vous voyez ici. Des expériences de mutagénèse dans des organismes comme Cynecocystis qui produisent de l'heptadécane, par exemple. Donc l'inactivation d'un de ces deux gènes, n'importe lequel, conduit à la disparition totale de production de ces alcanes. Donc tout un tas d'informations qui indiquent qu'on a trouvé en 2010 les gènes, les enzymes qui font cette production d'hydrocarbures. Et le résultat est le suivant. En fait, ces deux enzymes sont d'une part avec un substrat qui est de type acyl gras. Alors ACP, c'est l'acyl carrier protéine. Je vais en dire quelques mots parce que j'utiliserai souvent, puisque ça, c'est le substrat de la première enzyme. C'est une réductase qui transforme donc cette fonction thioester, hein, parce que là, on ne le voit pas, mais c'est un soufre, cette fonction thioester en un aldéhyde. Et d'une façon générale, ces alcanes, on peut admettre dans la grande généralité que ces alcanes à longue chaîne ou ces alcènes viennent de la réduction, le précurseur est un aldéhyde gras. Et donc tout le métabolisme est de conduire à ces aldéhydes gras et ensuite d'enlever CO pour donner cet alcane. De sorte que dès le début, et y compris dans cet article de Science en 2010, cette enzyme a été appelée aldéhyde décarbonylase. Sous-entendu qu'elle produit du CO, et vous allez voir que c'est faux. Et l'autre chose, c'est qu'il y a eu des questions pour savoir si c'était l'acyl carrier protéine, donc une protéine qui est douée pour transporter des molécules sous la forme d'acyl, hein, c'est RCO, ou bien s'il s'agissait de CoA, de coenzyme A, qui est aussi un thiol. Et des études diverses ont montré que non, ce n'était pas l'acyl-CoA, c'était des acyl-carrier-protéines qui étaient les substrats de la première étape. Ça a été montré avec des études cinétiques. Même si, par exemple, l'oléyl-CoA est un substrat, quand vous regardez les KM, ce n'est pas raisonnable compte tenu des concentrations de ces substrats. Donc, c'était un premier élément. Et puis, avec une mutation d'un gène qui est FADD, qui code pour l'acyl-CoA synthase, eh bien, vous voyez qu'il y a la même quantité de production d'alcane. Bon, voilà. Donc, on peut admettre que c'est ça le chemin de biosynthèse des alcanes par ces bactéries. Voilà, juste pour vous rappeler, c'est de la biochimie de base, mais bon, voilà, il faut rappeler de quoi, il faut bien préciser de quoi on parle. Vous avez ces deux entités, le coenzyme A ici. Et là, vous avez un thiol. Voici à nouveau le coenzyme A. Vous avez un thiol, et ce thiol est en bout de chaîne d'un groupe phosphopentétéine que vous avez aussi dans l'acyl carrier protéine qui est là, ce groupe est accroché directement. Et vous voyez que c'est ici que s'accroche l'acyl, donc c'est un thioester lorsque je parle d'acyl ACP ou d'acyl CoA. Voilà, c'est juste pour préciser un peu cette chimie-là. Dans cet article de Science, non seulement on rapporte la découverte de ces deux gènes, donc on comprend la chimie de biosynthèse des alcanes, mais en plus, ils obtiennent une structure aux rayons X de la fameuse aldéhyde décarbonylase, la dernière étape. Et la voici, cette structure, et ce qui est tout à fait caractéristique, c'est qu'elle appartient à une famille d'enzymes dont j'ai un peu parlé, enfin à plusieurs reprises j'en ai parlé dans les années précédentes. Ce sont des enzymes à fer non héminique, binucléaire, vous voyez, il y a deux atomes de fer, et la coordination, ces atomes de fer sont accrochés à la protéine via des liens avec des histidines ou des carboxylates, glutamate ici essentiellement. Et alors ça c'est très curieux parce que voilà, je fais une comparaison avec un exemple de ces protéines, de ces enzymes. Il y en a des très très grandes quantités. Bon, il s'avère que je suis particulièrement attaché à celle-là parce que dans mes jeunes années, j'ai travaillé sur la ribonucléotide réductase, qui est donc une enzyme clé de la biosynthèse des désoxyribonucléotides. Mais j'ai travaillé aussi sur un autre exemple qui est la méthane monooxygénase, justement. Donc une enzyme qu'utilisent certains organismes dits méthanotrophes qui poussent sur du méthane et donc qui sont capables de transformer le méthane en méthanol. Et donc c'est une oxydation. Là aussi, cette enzyme catalyse une réaction qui est dépendante de l'oxygène. Et à ce moment-là, évidemment, vous voyez, la similitude des deux structures a conduit certains spécialistes d'ailleurs de ces questions, de ces enzymes, à se dire, mais finalement, quand vous regardez acyl donne alcane et départ de CO, c'est une réaction qui est non redox, telle qu'elle est écrite ainsi. Et donc, comment ça se fait que la nature ait choisi un cofacteur qui, jusqu'à présent, n'a été utilisé essentiellement que pour des réactions d'oxydation? Et ça a amené donc un certain nombre de biochimistes, spécialistes d'ailleurs de ces enzymes, de mieux regarder la chimie de ces systèmes. Alors, la première observation, c'est que contrairement à l'idée initiale, hein, la CO, l'aldéhyde décarbonylase, cette réaction qui transforme un aldéhyde en alcane plus CO, réaction non redox, dans le bilan, il n'y a pas d'électrons, et pourtant, il y a une source d'électrons qui est nécessaire. Il a été montré que, voilà, si il vous faut le système NADPH, source d'électrons, ferredoxine réductase, et voilà, si vous enlevez un des éléments ici, si vous enlevez l'enzyme, vous n'avez rien, il n'y a que lorsque vous avez un mélange de l'enzyme, du NADPH, de la ferredoxine, réductase. Donc, il faut un système d'électrons, et par ailleurs, il faut de l'oxygène. Et le produit de la réaction n'est pas du CO, mais de l'acide formique. Et donc, son nom a été changé, même si vous trouvez dans la littérature toujours le terme aldéhyde décarbonylase, ce n'est pas une aldéhyde décarbonylase, c'est-à-dire ce n'est pas une enzyme qui catalyse cette réaction, ce n'est pas une enzyme qui catalyse même cette réaction-là, mais qui catalyse une réaction d'activation réductrice de l'oxygène, comme le font toutes les monooxygénases, pour transformer cet aldéhyde en alcane et en acide formique. Et il a été très clairement démontré dans tous ces articles, vous voyez, entre les années 2011 et 2013, que le produit de la réaction est bien l'acide formique, que l'oxygène est absolument nécessaire, qu'on retrouve de l'oxygène marqué lorsqu'on utilise du dioxygène marqué dans l'acide formique, et qu'il faut une source d'électrons, donc on est vraiment dans un système d'activation réductrice de l'oxygène classique des monooxygénases. Voilà, de sorte que, bon, on peut écrire des mécanismes de ces réactions. Il faut que vous soyez à l'état fer 2, il faut que l'enzyme ait ses atomes de fer à l'état fer 2, c'est dans ce seul état que le fer est capable de fixer l'oxygène moléculaire à travers une addition oxydante, vous voyez, fer 3, et puis l'équivalent d'un peroxo. Ce peroxo est assez nucléophile pour attaquer un aldéhyde électrophile, pour donner ce type d'intermédiaire. Ici, voilà, ce sont de la spectroscopie Mohs-Bauer qui permet de suivre la réaction et notamment les états redox des atomes de fer. Bon, ça permet de préciser et de valider les hypothèses mécanistiques. Ensuite, par une série de réactions, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais vous produisez un radical, enfin, à la suite d'une série de réactions de coupure homolytique, vous produisez un radical R point qui arrache un atome d'hydrogène et vous libérez l'acide formique ici, enfin le formiate en l'occurrence, et moyennant des électrons, puisque vous êtes à l'état fer 3 à la fin du cycle, vous fermez le cycle en reproduisant du fer 2 et ça tourne. Donc on commence à comprendre un peu bien par une chimie finalement pas si nouvelle que ça, puisque c'est de la chimie de type monooxygénase avec des systèmes binucléaires à fer. À nouveau, on retrouve que même pour faire des chimies très bizarres, la nature a choisi les mêmes briques, n'a pas inventé de multiples systèmes enzymatiques. Voilà, donc à la fin des années 2012-2013, on connaît ces gènes-là et on en connaît la chimie. Et puis ensuite, évidemment, à partir de ces observations et de ces nouvelles connaissances, un certain nombre, bien sûr, de gens plus portés sur les biotechnologies se disent ben, « je vais exploiter ces données, ces informations pour produire des organismes, des micro-organismes qui sont des producteurs d'hydrocarbures. » Et en exploitant évidemment cette aldéhyde déformylating oxygénase, je ne sais pas comment on peut dire ça en français, mais voilà, c'est la fameuse, c'est la deuxième protéine de mon chemin biosynthétique. Et là, par exemple, voilà, c'est un travail, vous voyez, qui a été publié dans Nature Communications en 2014. À nouveau, exploitation d'Escherichia coli pour produire du propane. Alors le propane, c'est un hydrocarbure qui est tout à fait utile et intéressant. Et là, c'est voilà, une combinaison de surexpression d'enzymes naturelles, enfin d'enzymes de coli, donc si vous voulez, c'est de l'ingénierie métabolique, c'est de la biologie de synthèse, et on introduit dans Escherichia coli tout un tas de gènes pour accumuler le plus possible de propane. Et le précurseur du propane, c'est un aldéhyde, c'est le butyraldéhyde. Donc, on part du glucose et on fait le butyryl acyl carrier protéine. Ça, coli dispose de ces gènes. Donc, dans cette souche, ça a été surexprimé. Ensuite, vous avez une thioestérase pour casser la liaison carbone-soufre qu'il y a ici. Vous vous souvenez, à nouveau, hein, acyl carrier protéine, c'est un lien avec un acyl et un thiol. Vous faites le butyrate, donc l'acide butyrique. Ici, vous faites une décarboxylation, donc vous introduisez des gènes. Vous faites une réduction d'acide carboxylique, vous introduisez des gènes, donc carboxylique acide réductase. Donc vous voyez que c'est un gène de mycobactérium, c'est pas Escherichia coli. La thioesterase, c'était Bacteroides fragilis. Vous arrivez au butyraldéhyde, vous inactivez ces gènes qui peuvent conduire à la réduction donc des aldéhydes réductases, YQHD, AHR, ce sont des aldéhydes réductases, donc vous évitez, vous bloquez ça pour ne pas produire du butanol, et puis vous introduisez cette fameuse enzyme qui est capable de transformer les aldéhydes en alcanes, issus donc de ces cyanobactéries. Et puisque vous avez besoin de sources d'électrons, vous rajoutez, vous surexprimez une ferredoxine réductase et une ferredoxine, PET-F, puis en plus vous rajoutez de la catalase parce qu'il y a de la production d'H2O2. Enfin voilà, cette souche est optimisée. Et voilà, vous avez une souche d'Escherichia coli qui produit du propane. Plus compliqué, d'une certaine façon, un travail, vous voyez, publié dans Nature en 2013. Donc, c'est l'idée de produire non pas du propane ni des alcanes à longue chaîne. D'une certaine façon, les bactéries, quand elles produisent des acides gras, elles produisent des acides gras qui sont assez longs, hein, qui font plus que 14 carbones. Donc la taille intermédiaire, c'est-à-dire, vous voyez, entre C4 et C12, qui est intéressant parce que c'est le domaine du pétrole, hein, avec les tailles au-dessus, ce sont les diesels. Donc, production de pétrole par un micro-organisme, est-ce possible? Et donc, il faut produire des tailles d'alcanes qui ne sont pas les tailles naturelles. Et voilà, donc là aussi, c'est une souche de colis qui est largement modifiée. Je vais vous montrer comment cette étude a été menée, à nouveau pour vous rappeler toute cette démarche de biologie synthétique. Donc le glucose est transformé en acide gras, en acyl gras acyl carrière protéine. Si vous voulez libérer des acides gras libres, hein, donc pas accrochés à une protéine, eh bien il faut une thioestérase. Donc là c'est une thioestérase de colis qui a été utilisée, sauf qu'elle a été mutée. Donc évidemment, hein, vous vous souvenez que chaque enzyme d'un processus comme ça non naturel peut être muté aussi pour être optimisé, donc il y a de la mutation. Ensuite, vous avez ces acides gras libres peuvent être transformés en acyl-CoA. Donc il faut introduire de la synthétase, de l'acyl-CoA synthétase. Donc celle-là, elle a été surexprimée, mais elle vient de colis. Et puis vous avez une réductase, acyl-CoA réductase. Alors celle-là, elle vient de Clostridium acetobutylicum. Donc il y a le gène de Clostridium qui a été introduit dans colis. Et puis vous avez la quatrième enzyme ici, qui est la fatty-aldéhyde décarbonylase. Alors vous voyez qu'ici, ils continuent à l'appeler décarbonylase, alors qu'à nouveau, c'est une monooxygénase, hein, une aldéhyde monooxygénase. Et vous produisez des alcanes C9, C10, et cette aldéhyde décarbonylase, c'est l'enzyme dont je viens de parler en détail, elle vient d'une plante, Arabidopsis thaliana. Et puis, on inactive aussi des gènes qui peuvent consommer des intermédiaires, donc FADE est inactivé, et on inactive aussi un gène de régulation de la biosynthèse des acides gras qui est FADR. Vous voyez donc, on touche à des gènes de régulation, on touche à des gènes de colis, on rajoute des gènes d'autres organismes, enfin c'est toute la démarche de la biologie de synthèse. Et tous les gènes introduits sont introduits à travers de la biologie moléculaire avec la création de plasmides spécifiques qui sont optimisés pour ça. Voilà. Alors ici, dans cette étude, je vous détaille un petit peu comment optimiser. Alors, on a bloqué cette étape-là de sorte qu'on regarde uniquement les acides gras libres parce qu'on veut optimiser l'étape thioestérase. Alors, vous voyez, plusieurs thioestérases ont été modifiées et cette thioestérase qui a été mutée, elle produit moins d'acide. Elle est moins efficace. Pourtant, c'est elle qui a été choisie. Cette SA mutée. Pourquoi ? Parce que avec cette simple mutation, on a basculé d'un système qui est plus sélectif pour les acides gras, les acyles gras au-dessus de 14. C'est en ce qui est assuré ici. Et on s'est déplacé avec le mutant vers des tailles moins grandes, des préférences de substrats moins grands, et on commence à voir des C12 et des C10. D'accord ? Et c'est ça qu'on cherche. Donc voilà pourquoi c'est ce qui a été utilisé. Ensuite, bon, voilà, des études qui montrent que si on inactive ce gène et si on inactive celui-là, eh bien, petit à petit, on déplace le système vert, voyez ici C14, C12, C10, et puis on va jusqu'à C10, et puis C8, C9, enfin voilà. Donc tout le travail dans cet article de Nature, c'est de manipuler le métabolisme pour déplacer la préférence métabolique vers des acides gras à chaîne de taille C9, C8, C9, C10, C12, et pas C14, C16, etc. Voilà, et faisant cela, ce sont des bactéries qui, évidemment, ne sont pas faites pour ça, mais qui produisent des quantités tout à fait importantes d'alcane et dans des tailles voilà, comme le nonane, voyez, 330 mg par litre. Ce sont vraiment des, voilà, ce sont des exploits de l'ingénierie métabolique qui sont des travaux à très long terme, hein, parce que chaque étape doit être optimisée et puis tout doit être combiné dans une seule bactérie. Mais là encore, on découvre qu'on peut faire faire aux bactéries un peu n'importe quoi et qu'elles survivent, même si elles ne sont pas faites naturellement pour porter ces gènes qui ne sont pas elles et pour produire des molécules qu'elles n'ont pas l'habitude et qu'elles ne produisent jamais. Un autre résultat qui est tout à fait intéressant parce que ça amène à découvrir une nouvelle enzyme. Hein, vous voyez que... il y a en permanence cette idée que cette recherche qui a des finalités d'application, hein, parce que, bon, oui, utiliser des bactéries pour produire des hydrocarbures, c'est aussi des chemins qui nous amènent à faire des découvertes fondamentales. Donc, j'ai insisté à plusieurs reprises que ce lien entre recherche fondamentale et recherche appliquée est absolument central, parce que vous ayez... Une approche très appliquée, très fondamentale, vous amène à faire des découvertes qui auront des applications. Et si vous avez une finalité très appliquée, vous allez découvrir des choses fondamentales qui vont vous porter aussi sur, sur une pertinence de votre recherche pour les aspects fondamentaux. Donc c'est un tout. Et ça, c'est un autre exemple. C'est la découverte que certains... micro-organismes produisent cet alcène-là, celui-là, vous voyez, à 11 carbones avec une double liaison terminale, le 1-décène. Bon, c'est un produit qui est intéressant, vous voyez, c'est un carburant, c'est une température de congélation qui est inférieure à celle du diesel, c'est compatible avec les moteurs actuels, c'est un précurseur de tout un tas de composés, pesticides, polymères, détergents, etc. Et donc, il a été découvert que des organismes comme Pseudomonas produisaient cet alcène. Et en faisant donc, à l'aide d'une approche génomique, donc les gènes de Pseudomonas ont été introduits dans 6000 plasmides différents. Ces plasmides ont modifié donc. Ont permis de modifier Escherichia coli, donc vous avez des banques de bactéries Escherichia coli qui contiennent tous les gènes de Pseudomonas, et vous suivez la production de ce composé, le 1-décène, et en exprimant, donc en faisant pousser ces souches de coli qui expriment les gènes de Pseudomonas, vous pouvez remonter aux gènes qui est responsable de la production de ce 1-décène. Et la découverte, c'est qu'il y a une enzyme qui a été appelée IND-A, qui est une enzyme qui fait une décarboxylation oxydative. En fait, c'est l'acide palmitique qui est le précurseur de cette molécule. Donc, c'est une nouvelle enzyme. Et ce qui a été démontré, c'est que cette enzyme... donc est présente dans un certain nombre d'organismes, hein, Pseudomonas. Voilà le 1-décène. Quand vous inactivez ce gène 1-A, qui a été donc découvert par la stratégie que je viens d'indiquer, eh bien vous n'avez pas d'activité. Coli ne produit pas le 1-décène, et quand vous exprimez 1-A, ce seul gène dans Coli, vous avez une production du 1-décène. Et il a été démontré que le précurseur, c'est l'acide laurique, et c'est une réaction qui a besoin d'oxygène et qui a besoin de fer 2. Ça a été montré dans cet article-là. Donc c'est une oxydation, une décarboxylation, vous voyez, puisque le produit c'est CO2, oxydative, puisque ça a besoin d'oxygène et d'un catalyseur à base fer 2. Bon, il s'avère que dans ce même article, après avoir découvert le gène 1-A, les auteurs ont aussi obtenu une structure aux rayons X de la protéine 1-A, et de façon très très intéressante avec un analogue de substrat. Vous voyez, le substrat, il n'y a pas de double liaison ici. Et avec cette double liaison, la décarboxylation ne peut pas se faire. Donc avec un analogue de substrat qui n'est pas un substrat, donc ils ont obtenu la structure aux rayons X avec cet analogue de substrat dans la protéine et cet analogue de substrat que vous voyez ici. Évidemment, vous voyez une poche très hydrophobe. Je ne rentre pas dans le détail, mais vous voyez valine, glycine, isoleucine, leucine, enfin, etc. etc. Phénylalanine, donc c'est adapté à une cavité qui va recevoir quelque chose de très hydrophobe. Et puis, de façon très, très intéressante, ils observent un site de fixation du fer où vous avez le carboxylate du substrat qui se fixe sur le fer. Vous avez, je ne sais plus si c'est un glutamate ou un aspartate qui est ligand. Et vous avez un site ici qui contient une molécule d'eau, de sorte que quand vous ajoutez de l'oxygène, vous avez la fixation de l'oxygène. C'est un très, très beau travail qui permet aussi à l'échelle atomique, grâce à la cristallographie des protéines, d'obtenir des intermédiaires de type fer-oxygène, qui sont des intermédiaires clés de la réaction. Donc, vous voyez, on part d'une problématique qui est de produire le 1DCN par une bactérie, et puis on arrive à des nouvelles enzymes avec des compréhensions de mécanismes assez complexes. Voilà. Donc, le mécanisme qui a été proposé dans cet article, c'est que vous avez du fer 2 qui est fixé par deux histidines. Oui, j'aurais dû le mentionner, mais vous voyez, donc il y a des histidines ici qui fixent le fer, et un glutamate. Vous avez des molécules d'eau qui sont dissociables pour accepter le substrat, qui est un carboxylate, qui est un bon ligand du fer 2, et puis par une série de... Et puis ensuite, le fer 2 fixe l'oxygène moléculaire, de la façon dont le montre la structure aux rayons X, et vous avez une attaque voilà, de l'atome... Ce dioxygène sur l'atome d'hydrogène ici, radicalaire, qui induit une décarboxylation. Bon, je ne rentre pas dans le détail de cette chimie, c'est assez pointu, mais voilà. Donc, on comprend bien les choses. Voilà, donc, pour le moment, du point de vue des applications, rien n'a été fait avec ce système-là, mais on peut imaginer que des gens sont en train d'utiliser ce gène INDA pour faire produire du 1DCN à grande échelle par Escherichia coli. Production de méthane. Alors, quand on passe à... Donc, je parle d'un autre sujet qui est la production du méthane. Alors, quand on parle de production de méthane, évidemment, on pense tout de suite à une grande classe de micro-organismes qui sont les méthanogènes. Il existe à la surface de la Terre... un grand nombre de bactéries qui ont cette capacité de fixer le CO2 et de le réduire en méthane, qui est ensuite utilisé. Et donc, il y a eu énormément... Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces processus métaboliques qui sont extrêmement complexes, mais c'est des choses qui ont été énormément étudiées. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que ces méthanogènes sont des organismes qui ne sont, sont pas faciles à manipuler, qui sont classés dans le domaine des archébactéries. Simplement, retenez pour la suite, c'est que cette transformation du CO2 en méthane a besoin d'une source d'électrons, et cette source d'électrons, ça peut être de l'hydrogène. Donc, ces organismes vivent dans des niches où existent aussi des bactéries qui produisent de l'hydrogène. Et donc, le bilan de la réaction est ici. Vous voyez, CO2 plus 4H2 donne méthane plus 2H2O. Donc, ces bactéries, ces méthanogènes, donc, sont capables de fixer le CO2 et d'utiliser de l'hydrogène, parce qu'il faut des électrons, évidemment, il en faut 8. Et 8 protons pour transformer ensuite le CO2 en méthane. Donc, dans une approche qui consiste à dire, OK, je vais utiliser des micro-organismes pour produire du méthane, et ça, il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi le méthane est intéressant, il y a différentes façons de faire. Et très tôt, il y a 6 ans, 7 ans, c'est une des premières études qui montre qu'on peut faire des films de méthanogènes à la surface d'électrodes, de carbone en particulier. Vous voyez donc des organismes qui sont fixés à la surface des électrodes. On ne sait pas très très bien comment les électrons circulent. J'ai évoqué déjà cette problématique dans un cours précédent cette année, mais dans le cas des méthanogènes, on ne sait pas très bien comment ça se passe, parce que pour le coup, on démontre Très clairement, c'est ici, on démontre que, en effet, c'est un transfert d'électrons direct à la bactérie, donc en surface, et pas à travers la production d'un médiateur, par exemple de l'hydrogène, qui ensuite, vous voyez, comme dans un mécanisme comme ça, où on produirait de l'hydrogène et c'est l'hydrogène qui serait récupéré par la bactérie. C'est véritablement un transfert d'électrons direct. Et donc, lorsque vous appliquez un potentiel, vous voyez, donc différents potentiels, vous avez de la production de méthane. Donc, vous avez des films, des biofilms de méthanogène sur des électrodes. Vous appliquez un potentiel et vous formez du méthane. Et vous avez, ici, c'est le rapport entre courant électrique consommé et production de méthane. Et vous avez une très, très grande efficacité. C'est-à-dire que toute l'énergie que vous avez mise dans le système se retrouve sous forme de méthane. Donc, ce sont des systèmes qui sont extrêmement efficaces. Et puis, ça, c'est juste pour montrer que... ça, c'est la production de, c'est la production d'hydrogène. Il n'y a pratiquement pas de production d'hydrogène. Donc, la production de méthane ici, c'est vraiment du transfert d'électrons directs. Bon, ça, c'est une autre question. Étape suivante, vous voyez, 2015, c'est un travail qui consiste à dire, bon, plutôt que de faire des biofilms avec des méthanogènes fixés sur des électrodes, je vais faire... de la production d'hydrogène. Donc ça, ça nous ramène à tout ce que j'ai raconté de multiples fois sur la décomposition de l'eau, l'utilisation de cellules électrochimiques ou photoélectrochimiques, donc chimiques, avec des matériaux de type semi-conducteur, catalyseur solide, enfin, etc., pour produire de l'hydrogène, pour décomposer l'hydrogène, l'eau en hydrogène. Et en oxygène. Donc voilà, l'idée, c'est effectivement d'utiliser l'énergie solaire, donc un système de photosynthèse artificielle qui combine donc de la capture d'énergie solaire, alors des semi-conducteurs et des catalyseurs, qui transforme l'énergie solaire donc en électrons. Ces électrons sont utilisés pour réduire de l'eau en hydrogène, et cet hydrogène est donné à des cellules en culture qui ont la capacité de fixer le CO2, comme cette souche, cette archée Methanosarcina barkeri, qui est celle qui a été utilisée dans cette étude, qui a la capacité de fixer le CO2 et la capacité d'utiliser l'hydrogène qu'on lui donne pour se combiner avec le CO2 pour produire du méthane. Et donc, c'est ce qui a été fait dans cette étude. Et donc, vous voyez, on est plutôt maintenant dans ce schéma-là où l'électrode sert à... réduire les protons en hydrogène, et l'hydrogène est donné à la bactérie qui transforme le CO2 en méthane. Voilà. Donc, il y a eu une première approche avec des cellules électrochimiques à base de platine. Vous voyez, vous avez ici une cellule dans laquelle vous avez des électrodes de platine, et puis vous avez dans la partie cathodique des bactéries qui poussent dans un milieu de culture. C'est ces bactéries-là, Methanosarcina barkeri. Et puis, vous appliquez un potentiel plus ou moins grand. Alors, s'il n'y en a pas, il n'y a pas de production de méthane. Si vous appliquez un potentiel qui conduit à un courant de 2,5 mA, eh bien, vous avez du méthane. Plus votre courant appliqué est grand, et plus vous produisez de méthane. Et vous voyez, les rendements sont quand même très, très bons, puisque en moyenne, 80% de l'énergie que vous mettez se traduit en production de méthane. Alors, le platine, comme d'habitude, c'est pas toujours très intéressant, hein, pour des raisons de coût. Ces gens-là sont allés un peu plus loin. Ils ont remplacé le platine par des sulfures de nickel, des nanoparticules de sulfure du nickel. Ici, c'est la synthèse de ces nanoparticules. Ça n'a pas d'intérêt particulier. Et vous voyez que si vous êtes juste sur du carbone, il n'y a pas d'hydrogène suffisant pour alimenter les bactéries et produire du méthane. Oui, c'est ça. Donc, en effet, le système sulfure de nickel fonctionne. Enfin, on retrouve la même chose, si vous voulez, quand il n'y a pas de courant appliqué. Donc, c'est uniquement la partie cathodique, hein, ici. L'autre électrode est du platine. Et donc, vous avez production de méthane, là aussi, avec des rendements qui sont tout à fait intéressants. Donc, on peut passer à des cellules photoélectrochimiques, y compris pour alimenter des méthanogènes, avec des catalyseurs beaucoup moins chers et beaucoup plus abondants que le platine. Et puis, la dernière étape de ce travail, c'est de faire directement... parce que là, jusqu'à présent, vous voyez, c'est de l'électricité qui est ajoutée. Ça peut être l'électricité du secteur, ça peut être l'électricité d'un panneau photovoltaïque, etc. Là, c'est directement l'énergie solaire qui est transformée en carburant dans une cellule photoélectrochimique. Un premier exemple de cellule, c'est avec une photocathode. Vous voyez, avec un catalyseur à base de nickel-molybdène, bon, qui est connu pour faire cette chimie-là, de réduction des protons en hydrogène, avec un collecteur de photons solaires, enfin un matériau semi-conducteur de type silicium. Bon, simplement, il n'y a pas d'énergie suffisante, donc vous êtes obligé, c'est ce qu'on appelle un bias, vous êtes obligé de rajouter du potentiel, mais néanmoins, vous voyez que... Là aussi, vous avez production de méthane avec un très bon carburant, un très bon rendement. Et le dernier exemple, c'est une photocathode et une photoanode. Photoanode à base d'oxyde de titane, une photocathode à base avec un semi-conducteur de type phosphure d'indium et un catalyseur à base de platine. Et là, vous n'ajoutez aucune énergie supplémentaire. Vous éclairez cette cellule photoélectrochimique. Et vous produisez du méthane. Donc, c'est un système qui est quand même assez remarquable. Vous avez des bactéries qui supportent tout ce traitement-là. Vous éclairez ce système dans lequel il y a de l'eau, des bactéries et du CO2. Et vous produisez de l'hydrogène qui alimente ces bactéries et ces bactéries transforment le CO2 en méthane. J'arrive au tout dernier résultat qui m'a semblé intéressant de rapporter dans ce domaine. Et c'est un travail qui a été, un travail de biologie synthétique qui a été mené vous voyez, en 2016. C'est publié dans Energy Environmental Science. Et donc, c'est l'utilisation d'une cyanobactérie pour produire de l'isoprène. Alors, l'isoprène, c'est un composé qui est très, très, très utile industriellement. Voilà, ça sert à faire de la gomme synthétique, des lubrifiants, des adhésifs, c'est des précurseurs de terpénoïdes, enfin, etc., etc. Et évidemment, on l'obtient par craquage du pétrole. C'est un des produits de la pétrochimie. Or, il s'avère qu'il y a quelques années, il a été découvert que l'isoprène est un produit naturel, notamment les plantes possèdent un gène qui est ISPS, qui transforme le DMAPP. Alors, le DMAPP, c'est cette molécule, c'est le diméthylallylpyrophosphate. Vous voyez, il y a un diméthylallyl et puis il y a le pyrophosphate ici, donc c'est une molécule relativement simple, qui transforme le diméthylallylpyrophosphate en isoprène. Voilà, c'est cette transformation-là. Alors, le diméthylallylpyrophosphate, c'est un composé naturel. C'est une molécule extrêmement importante. C'est un précurseur de tous les terpènes, les terpénoïdes. Et on sait aujourd'hui les voies de biosynthèse du DMAPP. D'ailleurs, il y en a deux classes. J'ai évoqué ces voies de biosynthèse il y a quelques années dans un cours. Donc on connaît bien les voies de biosynthèse. Et chez les bactéries, c'est ce qu'on appelle la voie méthyl-érythritol-phosphate. Elle est très très différente de celle qui existe chez les eucaryotes, chez nous par exemple, chez l'homme. De sorte que cette voie est aussi très intéressante dans la recherche de médicaments antibactériens, parce que si on arrive à inactiver un de ces gènes-là d'une bactérie pathogène, par exemple, on peut trouver des molécules qui ne touchent pas à la biosynthèse du DMAPP humain. Voilà, donc ça, c'est un aspect de cette voie. Mais ici, l'idée, c'est de produire du DMAPP de façon abondante en exprimant en plus ce gène ISPS qui n'existe pas dans la cyanobactérie pour changer le DMEPP en isoprène, puisque dans cette cyanobactérie, le DMEPP ne se change jamais en isoprène. Alors pourquoi une cyanobactérie ? Eh bien, cyanobactérie parce que ce que voulaient faire ces gens-là, c'est d'utiliser l'énergie solaire pour transformer voilà, du glucose en isoprène. Donc vous avez toute la voie photosynthétique donc, qui sert à accumuler du NADPH, parce que vous voyez, à certains endroits, vous avez besoin de NADPH. Donc l'énergie est fournie par l'énergie solaire, c'est un organisme photosynthétique, ça produit du NADPH qui stocke donc de l'énergie, et cette énergie est utilisée dans différentes voies. Voilà. Alors, il faut donc optimiser cette voie-là jusqu'à IPP. Alors le précurseur, j'insiste là-dessus, le précurseur du MAPP, c'est IPP. Alors c'est cette molécule. C'est un isomère de cette molécule, c'est l'isopentényl pyrophosphate, et il y a une enzyme clé, c'est IDI, c'est une isomérase qui transforme IPP en DMAPP. Alors, voilà, donc la démarche classique, il faut choisir le bon ISPES. Vous voyez, il y a une étude très exhaustive de différentes, voyez, de différents ISPES, vous ne le voyez pas ici, mais ce sont des noms abrégés de différents organismes. Donc, finalement, on en trouve un. Donc, c'est celui d'Eucalyptus globulus qui a été choisi. Vous voyez, c'est celui qui donne la plus grande activité, qui catalyse donc cette réaction. Vous voyez, l'isoprène, c'est ça. Donc au tout début du chemin métabolique, vous avez le glycéraldéhyde 3-phosphate et le pyruvate qu'il faut combiner grâce à cette enzyme DXS. Et donc, ce qui a été fait, c'est de surexprimer DXS, donc, qui existe chez Coli, et exprimer la meilleure IDI, celle qui est l'isomérase ici, et c'est l'enzyme de Saccharomyces cerevisiae qui a été choisie. Voilà. Ensuite, ils sont allés plus loin puisqu'ils ont trouvé que s'ils faisaient un hybride non naturel, hein, c'est-à-dire qu'ils fusionnent IDI avec ISPES, ils avaient encore une meilleure activité. Donc ils ont fait un gène non naturel qui est une combinaison de deux gènes. Ensuite, ils ont surexprimé ISPG, puisque c'est une des enzymes dans la voie de biosynthèse de IPP. Et ils ont étudié différents ISPG, et puis ils ont choisi celle de, voilà, de cet organisme, Thermocynococcus elongatus, etc., etc., pour finalement obtenir le meilleur organisme, SE52, qui, en culture, à 37 degrés, illuminé, aéré, dans un photobioréacteur, produit de l'isoprène, à un taux tout à fait impressionnant. Voilà, si on extrapole les résultats, vous voyez, 4,26 mg par litre et par heure, ça fait du 3 tonnes par hectare et par an, puisque les cyanobactéries, hein, vous savez, vous les faites pousser en surface. Eh bien, si on compare à la gomme naturelle, qui est produite à hauteur de 0,3-1,5 tonnes par hectare et par an, vous voyez, ça, on peut considérer que ce sont des stratégies naturelles. De la gomme, de l'isoprène, du caoutchouc naturel, mais biosynthétisé par des micro-organismes. Vous voyez, au fond, je parle de pétrole vert, d'une certaine façon, puisque c'est du pétrole, ce sont des produits organiques, des hydrocarbures, qui viennent du glucose, qui est transformé donc, par ces micro-organismes. Dernière histoire que je voulais vous raconter, et je termine sur cette notion d'organisme chimiquement modifié. C'est un travail, vous voyez, récent, Science 2016, une des toutes dernières choses qui m'a semblé tout à fait intéressante et qui rentre dans cette vision que j'ai à plusieurs reprises développée, hein, cette notion d'organisme chimiquement modifié. On voit apparaître aujourd'hui des travaux qui montrent que on peut non seulement modifier les gènes, transformer des bactéries, des micro-organismes pour faire quelque chose qu'elles ne savent pas faire. Ça, c'est, disons, de la pure biologie moléculaire. Donc, c'est tout ce qui est, à nouveau, ingénierie métabolique, biologie de synthèse, etc. Mais on peut aussi ajouter des éléments chimiques à des organismes vivants qui affectent, au bon sens du terme, très efficacement certaines voies métaboliques. J'ai donné l'exemple, vous vous souvenez, de nanotubes de carbone qui étaient introduits dans des chloroplastes et qui amélioraient la performance photosynthétique. J'ai parlé d'un travail auquel on était associé de l'ajout d'un petit complexe de fer qui rendait des souches d'Escherichia coli capables de produire de l'hydrogène. Et là, voilà une autre combinaison. En fait, c'est un travail qui a consisté à se poser la question: est-ce que je peux transformer un organisme non photosynthétique en organisme photosynthétique? Et évidemment, ça pourrait être fait en introduisant tous les gènes de l'appareil photosynthétique, et ça, je pense que certains ont essayé, mais n'y sont jamais arrivés, c'est beaucoup trop compliqué. Et là, c'est une approche purement chimique, ce sont des chimistes qui ont fait ça. Vous prenez une bactérie non photosynthétique, donc ici c'est celle-là, hein, Morella thermoacetica, qui est capable de réduire du CO2, donc de fixer du CO2 et de les réduire. Eh bien, ce qui a été fait, c'est que ces gens-là ont trouvé une façon de déposer à la surface de cette bactérie, hein, voilà de la microscopie qui montre les éléments, des nanoparticules, donc inférieures à 10 nanomètres, des nanoparticules de sulfure de cadmium. Alors, le sulfure de cadmium, bon, c'est un matériau qui est très utilisé comme semi-conducteur, qui sont à la base, peut-être vous avez entendu parler de ça, de ce qu'on appelle les quantum dots, mais des semi-conducteurs, vous voyez, avec un band gap de 2,5 électronvolts, donc c'est assez intéressant pour attraper les électrons du spectre solaire. Bon, qui a une mauvaise réputation parce que le cadmium est considéré comme toxique, mais ils ont réussi, et finalement par une voie purement biosynthétique, à faire déposer, c'est-à-dire ils n'ont pas fait des nanoparticules de sulfure de cadmium et puis ils ont tout mélangé sur des bactéries en espérant que ça s'accroche. Ils ont tout simplement donné des sels de cadmium dans le milieu de culture, de la cystéine, et ils ont fait pousser, en ajoutant de la lumière d'ailleurs, et tout naturellement, la bactérie a réagi en transformant ce sel de cadmium et ses cystéines en sulfure de cadmium qui s'est déposé à la surface de la bactérie. Et ensuite, l'idée, c'est, eh bien, je me trouve avec une bactérie et des semi-conducteurs qui sont capables de fixer les photons solaires. Donc, alors évidemment, c'est un système photosynthétique potentiel, sauf qu'il n'est pas à l'intérieur de la bactérie comme ça l'est dans les organismes photosynthétiques, mais est-ce que ça ne peut pas faire de la chimie? Et ça en fait, c'est assez extraordinaire, parce que ici, dans ce schéma, vous voyez, la nanoparticule est ici. Donc, vous éclairez cette bactérie, la partie extérieure ici, les nanoparticules fixées, ont la capacité de... voilà, d'exciter des électrons. C'est le principe du semi-conducteur, d'exciter des électrons qui vont être utilisés pour réduire des protons ou de se combiner avec des protons dans un chemin métabolique particulier qui est du Lyngdal de ces bactéries qui sont capables de fixer le CO2. Ce potentiel électrochimique est utilisé pour réduire le CO2 en acétyl-CoA et ensuite ça donne de l'acide acétique. Et les trous correspondants sont utilisés pour oxyder la cystéine. Comme d'habitude, hein, vous savez, un semi-conducteur, des électrons excités par le photon, des trous qui doivent trouver un substrat pour être oxydé, et les électrons sont utilisés dans ce chemin. Donc, On ne sait pas très bien ce qui se passe à l'interface ici entre la nanoparticule qui est sur la surface de la bactérie, mais ça fonctionne, c'est-à-dire que vous avez le pouvoir électrochimique qui est introduit à l'intérieur de la bactérie, qui trouve les bons partenaires, et de sorte que, en effet, le système est capable de faire cette réaction CO2 plus de la cystéine, qui est l'accepteur de trous, plus des photons, donne de l'acide acétique. Donc, cette bactérie produit de l'acide acétique, c'est-à-dire a transformé le CO2 en acide acétique. On a inventé un système photosynthétique qui marche par certains aspects très bien. Vous voyez, rendement en acide acétique 90%. Le rendement quantique, c'est-à-dire le rapport entre l'énergie stockée sous la forme d'acide acétique et l'énergie lumineuse appliquée, est de 2,5%. C'est bien mieux que le fameux rendement de la photosynthèse dont je vous ai dit plusieurs fois que pour les plantes, il était inférieur à 1%. Et au mieux, dans les meilleurs organismes photosynthétiques, on est de l'ordre de 2 à 4%. Voilà, bon, ça a des inconvénients, ça s'arrête. D'abord, ce n'est pas très pratique d'avoir comme substrat de la cystéine, hein, ça coûte cher, etc. Donc il faut trouver autre chose pour ici prendre les trous. Et puis par ailleurs, le système s'arrête parce que, bon, voilà, il faut. Vous mettez de la lumière sur une bactérie qui n'a pas l'habitude d'en recevoir, à force, ça fait de l'énergie. Bon, il faut contrôler tout ça. Dans un système photosynthétique normal, naturel, tout ça est très bien contrôlé et l'excès d'énergie ne conduit pas à la rupture de la cyanobactérie, alors qu'ici, il peut y avoir un problème. Voilà, j'en ai terminé. Aujourd'hui, j'ai axé mon propos sur les hydrocarbures. C'est vraiment un domaine qui est passionnant. En tout cas, c'était l'opportunité pour moi de vous montrer que dans ce domaine-là, il y a des recherches tout à fait originales, nouvelles, modernes, qui illustrent bien la puissance de cette coopération entre chimie et biologie. Je me répète, je suis désolé, j'insiste sur cette alliance entre la chimie et la biologie. J'insiste d'autant plus que, enfin, non seulement j'essaye de la faire vivre moi-même avec mes collaborateurs dans mon laboratoire, mais qu'en même temps, en dépit du fait qu'on en parle beaucoup, finalement, il y a encore peu d'acteurs, mais vous avez vu, ceux qui y sont font des choses qui sont tout à fait excitantes. Donc la seule limite, c'est... Enfin non, il y en a deux, parce que j'allais dire la seule limite, c'est l'imagination. Effectivement, ça en est une. Il y en a d'autres. Les autres limites, c'est que, en effet, il faut quand même faire attention. Là, je vous ai parlé de modifications qui peuvent être considérées comme un peu trop poussées du vivant. Donc il y a toutes les questions d'éthique et de sécurité. Et puis, il y a une troisième limite, celle-là que j'ai déjà évoquée à plusieurs reprises. Cette interface entre la chimie et la biologie est d'une exigence, je dirais, extrême. C'est vraiment la nécessité, enfin, c'est mon point de vue, et je ne suis pas sûr qu'il est partagé, y compris dans les organismes publics ou dans les universités, où on continue à séparer... les sections de biologie et les sections de chimie, les enseignements de chimie et les enseignements de biologie, enfin, etc., etc. Et je crois que ça ne se développera au mieux que si les acteurs, les futurs acteurs, répondent à cette exigence d'acquérir les deux cultures, d'une certaine façon. Alors, vous voyez bien, c'est exigeant, puisque, compte tenu des développements fantastiques des deux sciences, croire qu'on va pouvoir les maîtriser toutes les deux, c'est évidemment très présomptueux. Mais néanmoins, c'est mon point de vue qu'il faut faire l'effort d'essayer d'y rentrer, de comprendre certaines choses, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on fera des découvertes en combinant à nouveau les concepts et les outils des deux disciplines. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention et pour votre présence pendant ces enfin pour ceux qui, je sais qu'il y en a certains, qui ont été là pendant ces deux années, on a vu pendant deux ans, je crois, quelque chose d'assez large sur ce domaine. Et donc, je m'arrête là. Merci beaucoup.